Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Décryptage. C'était il y a 5 ans, très précisément le 11 janvier. La Chine annonçait le premier mort dû à un virus inconnu, un coronavirus qui allait, dans les mois suivants, balayer, bouleverser le monde entier. Près de 800 millions de personnes touchées, au moins 10 millions de morts officiellement, sans doute beaucoup plus, estime l'Organisation mondiale de la santé. 5 ans après, le virus est toujours là, mais circule à bas bruit. La tempête a été maîtrisée grâce aux efforts déployés pour enrayer la pandémie. Les leçons de la crise ont-elles été pour autant bien retenues et surtout seront-elles suffisantes pour faire face à une nouvelle pandémie qui, selon tous les spécialistes, est quasiment inéluctable? On en parle ce soir avec nos invités. En ligne avec nous, le docteur Massamba Sassoundiop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à mes côtés dans ce studio, le professeur Jean-Daniel Lelièvre, médecin au sein du service de maladies infectieuses et immunologie au CHU Henri Mondor à Créteil, spécialiste de la vaccination, expert à la Haute Autorité de Santé, ainsi qu'auprès de l'OMS. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous deux sur RFI. Pour commencer, je vous propose d'écouter les inquiétudes du patron de l'OMS, justement, qui a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours, estimant que même s'il est mieux préparé, le monde est encore loin d'être prêt à affronter une nouvelle pandémie. On l'écoute.
Nous sommes toujours vulnérables. Et à la question que beaucoup de gens me posent, à savoir si nous sommes prêts pour la prochaine pandémie, je réponds oui et non, parce que nous avons fait un certain travail de préparation, comme je l'ai souligné. Mais en même temps, sans une loi internationale contraignante comme l'accord sur les pandémies, il sera très difficile de faire des progrès vraiment significatifs en termes de préparation à la prochaine pandémie.
Voilà pour les mises en garde du patron de l'OMS, professeur Lelièvre. Est-ce qu'on a bien tiré toutes les leçons de la pandémie? Et pour commencer, est-ce que le Covid est aujourd'hui devenu une maladie bénigne?
Alors une maladie bénigne, oui et non, est une maladie beaucoup plus bénigne qu'elle n'était initialement, pour tout un tas de raisons qu'on pourra développer, mais elle reste une maladie qui est associée à une certaine morbidité, une certaine mortalité. Donc il y a des gens qui viennent encore à l'hôpital parce qu'ils sont atteints du Covid, et il y a des gens qui meurent encore du Covid, alors peut-être moins directement qu'auparavant où c'est le Covid en lui-même qui allait vous conduire en réanimation, mais le Covid à l'heure actuelle peut vous faire décompenser une maladie chronique, vous emmener à l'hôpital et malheureusement de temps en temps être encore fatal.
Mais on est mieux protégé qu'il y a 5 ans.
On est mieux protégé qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, la Covid arrivait et personne d'entre nous ne l'avait vu. C'est un petit peu, si on prend une image, comme quand les lapins sont arrivés en Australie. On n'a jamais vu de lapins, ils n'avaient pas de prédateurs. Eh bien, ils se sont multipliés, le virus s'est multiplié. Et petit à petit, avec l'immunité acquise par l'infection et par la vaccination, on a pu contrôler quand même ce virus. Donc, c'est normal qu'il soit moins problématique à l'heure actuelle qu'il était il y a 5 ans.
Voilà, on a trouvé la manière d'enrayer la pandémie. C'est ça la grande leçon de ces 5 dernières années.
Alors, est-ce qu'on a trouvé la manière? Naturellement, le virus, lui s'est adapté. On a trouvé les moyens pour essayer de le contrôler. Comme le disait le directeur de l'OMS, est-ce qu'on l'a fait de manière optimale? Sans doute pas, parce qu'on oublie que, évidemment, c'est un problème de santé. La Covid-19 est un problème médical avant toute autre chose, mais c'est aussi le reflet de ce qu'est la population mondiale à l'heure actuelle, de la surpopulation, de l'augmentation des échanges d'un pays à l'autre, des problèmes pour empêcher la diffusion d'une maladie. Si on revient sur les grandes épidémies, les grandes épidémies sont arrivées avec les interactions humaines. Et plus on aura d'interactions humaines, plus on aura d'épidémies. Et donc, c'est ce que disait aussi le directeur de l'OMS, on aura forcément une nouvelle pandémie. Est-ce que c'est dans l'année prochaine,
on va en
dans
parler.
5 ans?
Et sur les 5 années écoulées, et on l'a tous dit à l'époque, très rapidement, un vaccin ARN messager a été mis en place.
Oui, très rapidement. Alors, ça, c'est aussi ça a été l'objet de discussions. C'est à la fois très rapidement et pas très rapidement, parce que ça a été très rapidement parce qu'on travaillait sur l'ARN messager déjà depuis longtemps. Ça a été aussi très rapidement parce qu'avant le SARS-CoV-2, il y avait eu le SARS, il y avait eu le MERS, qui sont des virus quand même très proches, et on avait travaillé sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur un vaccin si un nouveau coronavirus arrivait. Donc, on avait tous les éléments pour développer très rapidement un vaccin. Ce qui a permis l'ARN messager, en fait, c'est surtout de développer très rapidement le vaccin et de l'adapter très rapidement au virus qui changeait. Pour autant, il reste un certain nombre de problématiques avec les vaccins ARN messager qui ne donnent pas des protections long cours, qui ne donnent pas des protections au niveau des muqueuses. Très bel outil qui a permis de vraiment contenir les choses initialement, mais il est encore perfectible.
Il y a encore du travail. Docteur Sassoun Diop, l'Afrique a été relativement épargnée par le Covid, alors qu'on craignait une catastrophe planétaire. Il y a quand même eu 260 000 morts sur le continent. Aujourd'hui, quelle est la situation et quelles leçons ont été tirées de cet épisode pandémique ?
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, je pense que le nombre de morts, mais un petit peu aussi dans le monde entier, probablement, nous en tout cas de notre expérience, est probablement trois fois plus que les chiffres.
Sous-estimé, oui.
Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, bon, nous, on a diagnostiqué le premier cas au Sénégal, puis le troisième, cinquième et tout. Donc, en fait, comme on est au contact des patients directement chez eux, donc en fait, on voit très vite les épidémies et on voit leur cinétique. La COVID, en fait, a été, quand vous prenez, parce qu'on dit que ça a très peu touché, en fait, c'est intéressant. Si vous regardez, on a fait, c'est l'Institut Pasteur, hein, avec le ministère de la Santé, a fait une enquête de séroprévalence sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Et en novembre 2021, c'est-à-dire trois mois, je dis bien trois mois après le Delta, on avait 94% de la population qui était positive. Nous, c'était notre ressenti du terrain. Notre ressenti, c'était qu'environ 60% de la population l'a eu dès la première vague et que petit à petit, à chaque vague, ça s'est aggravé et qu'avec le Delta, on avait l'impression que c'était presque tout le monde. Et avec l'Omicron, tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enquête de séroprévalence l'a prouvé. Donc, pourquoi je vous dis ça ? 94% de gens positifs, ça veut dire encore un peu plus trois mois avant, et seulement 10 à 15% des gens selon les pays, parce qu'on a eu les mêmes choses au Burkina, au Mali et tout, si on prend toutes les études qui ont été faites, et 10 à 15% de gens qui ont été vaccinés. Donc en fait, on s'aperçoit, et c'est ça qui est compliqué, moi je suis le premier, qu'on soit clair, pour la vaccination. J'ai été vacciné dès que ça a été possible, et je pense qu'il fallait le faire et qu'il faut le faire. Maintenant, le problème du corona, de la COVID-19, c'était un petit peu ça. Alors, si vous voulez, on pourra discuter de pourquoi, parce que bon, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus. Pourquoi en Afrique, je vais aller très vite si on peut, mais typiquement, un, c'est les âges des populations. Voilà. Mais deux, ce qui est intéressant,
c'est la jeunesse de la population qui a fait qu'il y ait moins de victimes.
Nous, ce qu'on a constaté, parce qu'il se trouve que, bon, là, par exemple, je suis le garde actuellement à Paris, et en fait, je suis sur les deux pays. Et donc, de mois en mois, j'allais d'un côté et de l'autre. Et je m'étais aperçu qu'au début, les Africains en France, et comme d'ailleurs en Angleterre et tout, étaient les premiers, la première vague, c'était 60% des gens d'origine africaine ou antillaise qui étaient dans les réa. Donc, ce n'était pas le fait d'être africain qui protégeait. Et par contre, quand je retournais au Sénégal, je m'apercevais que c'est le fait de résider, c'est-à-dire que le français en Afrique, le sénégalais en Afrique, enfin l'africain en Afrique, l'asiatique en Afrique, faisait était moins grave. Et donc, c'est plutôt l'immunité. Et alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des études, une étude entre autres qui l'a prouvé en Tanzanie, mais qui montre que probablement lié aux autres coronavirus gentils, mais qui sont un peu plus méchants en Afrique que les autres. Nous, on a toujours des épidémies au mois de mai-juin et au mois de septembre de corona classique.
Est-ce que d'ailleurs l'Afrique, pendant l'épisode Covid, s'est finalement très vite organisée parce qu'elle a l'habitude d'affronter des épidémies ?
Alors, c'est un peu plus complexe. Je pense qu'on ne peut pas généraliser sur l'ensemble de l'Afrique comme ça. C'est évident qu'on a plus l'habitude, mais vous savez, quand on nous disait on fait bien les mesures barrières et tout, on avait eu Ebola avant, hein, Donc, où là, c'était autrement plus sérieux. Et finalement, lors de la période Ebola, je veux dire, lors de la période Covid, moi, nous, sur le terrain, on le voyait. Vous avez une maison avec 50 personnes dans cette maison. Le masque est accroché à l'entrée et chacun prend le masque pour sortir. Donc, si vous voulez, quand on pense que c'est appliqué à la lettre et tout, non, on a d'autres contraintes. Et donc, il faut comprendre que les mesures barrières, elles ont été, c'est évident, les gens se lavaient beaucoup plus les mains, les gens faisaient beaucoup plus attention. Mais il ne faut pas croire que ça va être appliqué de façon les plus, comment dire, obsessionnelles, si j'ose dire. Mmh. Et en fait, je pense que c'est parce que la COVID était quelque chose de particulier pour lesquels on avait probablement une immunité dans le fait de résider en Afrique, en dehors des âges, par rapport aux autres virus circulants, on a eu de la chance. Ça aurait été un SARS ou le MERS qui tuait beaucoup plus, on aurait eu des conséquences probablement beaucoup plus graves. Donc ça veut dire qu'il faut rester vigilant, il faut continuer à faire attention.
Docteur Sassoun Diop, est-ce que l'Afrique aujourd'hui serait prête, elle, à faire face à une nouvelle pandémie, ou est-ce que elle pourrait pâtir de ce qu'on avait vu à l'époque et qui persiste, à savoir l'inégalité en matière d'accès au financement aux vaccins. Est-ce que c'est une crainte?
Je pense que si jamais on est devant un virus qui réellement, par exemple, tue 30% de la population, c'est-à-dire, j'entends, en dehors de toute immunité préalable et tout, et tue les jeunes comme les vieux à 30%, c'est la catastrophe, il faut être clair. On n'a pas encore... Ça a permis d'upgrader, de monter, d'augmenter les réflexes par rapport à une pandémie, mais il est clair qu'aujourd'hui... Et puis, vous savez, il y a une chose qui est très simple. On avait l'impression d'avoir... On était saturé sur le système de santé, mais pourquoi? Pour tout un pays, quand vous avez 35 lits de réanimation avec un respirateur, au départ de la pandémie. À la fin, il y en avait 130. Mais 35 lits, tout confondu, toute pathologie confondue. Ben, c'est évident que même si vous avez 100 fois moins de cas graves pour une même population, une même quantité de population, c'est-à-dire pour 1 million d'habitants, par exemple, de toute façon, votre système y sature.
Voilà.
Et donc, là, attention à ça. Et l'autre chose, pour terminer juste sur ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que nous, on a eu l'expérience, par exemple, Ebola. Et lorsque il y a eu Ebola. Allô?
Oui, on vous entend haut et clair.
Lorsqu'il y a eu Ebola, on a regardé nos courbes et on s'est aperçu qu'en post-Ebola, le syndrome grippal qu'on avait justement au corona classique a été complètement décalé. C'est-à-dire que les gens ont eu tellement peur qu'ils ont fait attention, qu'ils ont fait toutes les mesures pour ne pas être infecté. Et donc, ça a vraiment marché. Et d'habitude, on a un pic énorme avec un maximum de consultations au mois de septembre. Et on n'a pas eu du tout de pic, on n'a rien eu. Et ce pic a été décalé en décembre. Ça veut dire que les gens n'ont pas tenu longtemps sur les barrières, les mesures barrières. Et au bout de 2 mois, finalement, ils sont revenus à leurs habitudes classiques.
Professeur Lelièvre, je voudrais également vous poser la question, malgré l'initiative mondiale COVAX, est-ce que le Nord, qui reste réticent à aider le Sud global, c'est vraiment le grand problème en cas de nouvelle pandémie?
Oh oui, très clairement. Et on le voit pour les vaccins plus classiques. Le vaccin grippal, il est accessible assez facilement dans l'hémisphère Nord. Il est beaucoup plus difficilement accessible dans l'hémisphère Sud. Tous les gens qui travaillent autour de la vaccination savent les grandes difficultés à approvisionner l'Afrique en vaccins. Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le vaccin VIH et sur les initiatives au cours du vaccin VIH. Et on essaye, parce qu'il y a quand même les forces vives en Afrique, de déplacer la recherche, déplacer la production. Mais ça reste un élément majeur. Si on prend une autre épidémie un peu plus récente qui a fait fort heureusement beaucoup moins de morts, qui est celle de Mpox, on voyait bien qu'il y a eu des vaccins qui ont été disponibles pour le Nord, alors qu'on n'avait jamais vacciné l'Afrique où les précédentes épidémies ont eu lieu. Et le vaccin est encore produit dans les pays de l'hémisphère Nord.
Alors, les experts scientifiques disent qu'une nouvelle pandémie est inéluctable. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, professeur Lelièvre? Et on pense et on parle beaucoup de ces maladies émergentes que sont les zoonoses, ces maladies infectieuses de transmission de virus animal aux humains. Est-ce que ça, c'est la grande inquiétude ?
Oui, mais ça a toujours été la grande inquiétude. Là, on est en train de médiatiser tout ça, mais ça fait longtemps qu'on se pose des
questions. Et pas nous, forcément, voilà. Et pas forcément nos auditeurs. On est là pour ça.
On médiatise tout ça, mais on voit bien, comme je le disais tout à l'heure, que c'est les changements que l'on voit à l'échelle de la planète, l'augmentation de la population, notamment des interactions.
La déforestation, par exemple.
Alors, ensuite, il y a la déforestation, mais déjà l'augmentation de la population mondiale et des contacts. Ça favorise. Ensuite, il y a la déforestation, l'interaction avec le monde sauvage, des réservoirs de virus comme peuvent être par exemple les chauves-souris. Donc beaucoup de choses, les changements climatiques, la dengue qui était une maladie qui touchait essentiellement quelque chose qui ressemble à la grippe pour nos auditeurs, qui touchait essentiellement les pays du Sud, est en train de remonter. On a décrit dans mon service l'année dernière le premier cas de dengue autochtone en Île-de-France. Et donc, on sait que tout ça, tous ces changements globalement de notre environnement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup maintenant de ce qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire que la santé de l'environnement, la santé animale, la santé de l'homme, tout ça est lié. Et il y a des passages, toute modification de l'un ou de l'autre va entraîner des changements majeurs et des risques d'évidemment de nouvelles pandémies. Alors encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? On ne sait pas, c'est probablement plus dans 10 ans que dans 50 ans, mais à quand, on ne sait pas exactement.
Docteur Sassoun Diop, est-ce qu'on se prépare à cette pandémie inéluctable sur le continent également, et de quelle manière?
Alors, on se prépare. Je pense que nos différents ministères dans différents pays le font en théorie. Mais c'est sûr qu'il y a une habitude quand même de gérer les épidémies. Le problème, et comme l'a dit mon collègue, c'est qu'effectivement, c'est la disponibilité des vaccins. On est très clair. C'est qu'en tout cas, le jour où il y a un vrai danger, à partir du moment où ce n'est pas produit en Afrique, mais même on l'a vu, si c'est produit aux États-Unis, pas forcément que la France ne l'aura pas forcément, et comme ça pour tout, ou en Chine par rapport aux autres. Donc le vrai problème, il est que tant que ce n'est pas produit, tant qu'on n'a pas une vraie indépendance sur la production des vaccins, de toute façon, on sera toujours à la traîne. Et je ne parle pas du problème de la recherche, où il faut investir à fond dans la recherche pour pouvoir effectivement avoir un minimum d'autonomie. Je ne parle même pas ensuite des traitements, en dehors des vaccins, des traitements lors des pathologies. Parce qu'en fait, après, une fois qu'ils sont en réanimation, il faut s'en occuper. Donc ça, on a un décalage énorme. Petit à petit, là, il va y avoir de plus en plus d'unités de production en Afrique. En Afrique du Sud, au Sénégal, c'est en train de se développer, probablement au Rwanda. Donc, il y a différents pays qui commencent à travailler sur ça. Mais il est clair qu'on a un déficit qui est énorme et que, de toute façon, si on a une vraie pandémie dangereuse, on payera les pots cassés.
Professeur Lelièvre, en résumé, l'urgence aujourd'hui pour faire face à la prochaine pandémie annoncée, c'est d'investir dans la recherche scientifique. C'est ça le message qu'on...
Oui, c'est
que vous pourriez faire passer.
C'est une des urgences parmi l'ensemble des problèmes que citait mon collègue. Il y a aussi le dépistage. Le problème de l'Afrique, il l'a bien noté, c'est que on n'avait pas les tests pour faire des PCR. Donc ensuite, on a fait de la séroprévalence. Donc ça change un petit peu. L'urgence, c'est d'essayer de vraiment se poser pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre ce qui continue à se passer. Et on n'a pas fait ce travail. On voit bien que là, on est en pleine épidémie de grippe en France. Et quand moi, je suis dans un hôpital, je regardais ce matin, il y a 20% des gens qui portent un masque.
Seulement 20%, vous voulez dire?
Ouais, seulement 20% des gens qui portent un masque. Et on voit bien la difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris, on s'est dit, bon, yes, c'est passé maintenant, c'est une maladie moins grave qui va toucher les sujets âgés, mais elle va toucher les sujets âgés, elle va toucher les gens autour de vous. Donc voilà, il faut apprendre tout ça.
Ainsi se termine Décryptage. Merci à vous messieurs, docteur Massamba Sassoun Diop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar. Également le professeur Jean-Daniel Lelièvre, médecin au sein du service de maladies infectieuses et immunologie CHU. Henri Mondor à Créteil, spécialiste de la vaccination, expert à la Haute Autorité de Santé, expert également auprès de l'OMS. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Éléonore Krenik et Sigrid Azerwal à la cellule invitée et à Fabrice Violet à la réalisation ce soir.